Hommage à The Sims.
Bonjour, King Lead.
Bonjour, Mandarin.
Partons en vacances.
On n'a pas l'expansion.
Sortons en ville?
Ben, j'aimerais ça, moi aussi, mais on n'a pas l'expansion.
Faisons du cinéma.
Ouais, ça serait cool, mais... Attends un peu. Ah, non, on a pas l'expansion.
T'es en train de me dire que tout ce qu'on peut faire dans ce jeu, c'est faire la cuisine, acheter des meubles et aller travailler?
Ben, quand t'as pas les extensions, ouais, c'est ça.
C'est bien plate!
Exactement.
Faisons un enfant.
Ah, ça se contrôle pas comme ça, tu sais, gars. Il suffit de vivre ensemble, écouter la TV, puis à un moment donné, poup, il y a un berceau qui apparaît dans la maison. C'est comme ça que ça marche dans le jeu. Oh!
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette première édition 2010 de votre magazine sur le monde ludique. Puissance maximale, Vincent Langlois au micro. Et je vous souhaite une très bonne année 2010 remplie de possibilités de jouer, bien sûr. Et nous, on en aura aussi également entre nous ici à Puissance maximale. Tout simplement, rapidement, vous saluer les gens en ma présence aujourd'hui. Il y a François G. Couillard qui est à la console.
Bonjour Vincent.
Salut François.
Bonjour de te voir après cette pause.
Et toujours, toujours heureux de te voir tous et toutes. On a également Christian Lacroix qui est avec nous.
Ah oui, salut.
Salut Christian. Guillaume Forin.
Salut tout le monde.
Et nous avons également un nouveau chroniqueur qui s'appelle Pierre-André Doyon.
Salutations à tous.
Alors, comme à l'habitude, on va faire un petit tour de table qui va nous amener vers une super chanson. Mais allons-y avec le tour de table d'aujourd'hui pour savoir ce qui se passe aujourd'hui à Puissance maximale. Christian, de quoi vas-tu nous parler?
Ben, de certains livres qui parlent de jeux de rôle, puis aussi des bandes dessinées, de certains comics que j'ai découverts, un petit jeu aussi. En tout cas, un peu de tout.
On touche à tout avec toi voilà. Aujourd'hui. Guillaume.
Et je vais vous parler de FFCB ou Final Fantasy Crystal Bearers, un nouveau jeu sorti sur la Wii.
Excellent. Pierre-André, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Moi, ben, je vais être plate. Je vais introduire ma chronique sur l'éthique. On va parler un peu philo et jeux vidéo, jeux de rôle en même temps.
Il y a une tradition à Puissance maximale de parler de philo avec le jeu. Hein? Steve Simard, le philosophe chantant, en avait déjà parlé. Alors, on va continuer là, avec
oui.
Pierre-André.
Puis, on va avoir un peu d'actualité avec ça, François.
Oui, et on va avoir aussi Chantal Campagnon, alias Fräulein Evil, qu'on va rejoindre à sa boutique, Le Valet de Cœur, et elle va nous parler de jeux de plateau.
À peu près à la mi de l'émission, comme à l'habitude. Et donc, c'est pas mal ça qui se passe avec Puissance maximale aujourd'hui.
Puis si on a le temps, évidemment, Vincent, tu vas nous parler de...
Si on a le temps, je vais peut-être vous parler de deux jeux auxquels j'ai joué durant le temps des fêtes, mais ce sont des vieux jeux que j'ai redécouverts sur la PS3. Quand même super intéressant, mais je vous garde le secret, juste au cas où on n'aurait pas le temps de se rendre là aujourd'hui, parce qu'on a une émission quand même assez chargée. Le temps de rappeler également que si ça vous tente de commencer augmenté au fur et à mesure de l'émission. On est à l'ère de l'informatique, même s'il faut pédaler un peu l'ordinateur. Mais il est possible de nous rejoindre par Facebook. Vous avez à rentrer François G. Couillard comme ami. François qui a plein d'amis qu'il ne connaît pas grâce à ça. Et vous avez qu'à l'entrer comme ami et faire des commentaires, soit sur le chat ou soit sur le mur de François. Et nous aurons la chance peut-être de vous lire en direct. Et on y va tout de suite en musique.
On va écouter un artiste de Québec, quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelle Maxime Robin, qui fait de la musique électronique. On va écouter une pièce qui s'appelle le Royal Break. Vous êtes à puissance maximale.
Le début est solennel, pompeux, royal. Le début est solennel, pompeux, royal. Le début est solennel, pompeux, royal. Le début est solennel, pompeux, royal, royal.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
retour sur les ondes de CKIA et on y va tout de suite avec la chronique de Christian Lacroix sur les jeux de rôle. Et Christian qui amène toujours plein de choses en studio, c'est de valeur qu'on n'ait pas...
Une webcam.
Oui, toujours plein de choses colorées, super intéressant.
Là, cette fois-ci, c'est transportable. En fait, j'ai amené, je vais commencer par un petit jeu de Fantasy Flight Games. C'est une réimpression, remake là, d'un classique de Game Workshop. C'est Chaos Marauders. C'est vraiment plaisant. Je l'ai essayé en fin de semaine. Puis ça fait partie de ce qu'on appelle la Silver Line, qui est une série de jeux qui sont toujours des petites boîtes et ça coûte environ 30$ maximum. Donc, c'est des jeux quand même accessibles. Souvent, c'est des jeux assez courts. Ça dure en 30 minutes et... en fait, c'est tellement chaotique qu'à la limite, ça pourrait durer 15 minutes. Là,
c'est un genre de jeu qui peut s'étirer ou qui peut durer très peu de temps selon ce qui arrive.
C'est ça, exactement.
Un petit peu la Munchkin qui peut durer des heures ou prendre 15 minutes.
Exactement. Ça ressemble étrangement à l'ambiance qu'on peut retrouver dans Munchkin ou aussi dans ceux qui ont joué à Yetisburg. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé. Ou c'est vraiment n'importe quoi. Là, ça peut être la catastrophe. Puis après ça, où tu peux te faire complètement tout wiper, mais après ça, deux tours après, tu remontes, c'est toi qui gagne. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est le chaos pur et dur. Faut avertir, moi j'ai averti mes joueurs, là, je prenais pas ça personnel, parce que ça... Et c'est ça, mais ça donne vraiment une belle ambiance de Warhammer. Bref, une petite réussite. Si vous aimez Warhammer, c'est un must, d'après moi. Là. C'est vraiment bien. Mais aussi, c'est toute l'iconographie, c'est l'ancien Warhammer. T'sais. Puis c'est tout mêlé, là. Vous avez des Skaven avec
l'ancien Warhammer, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, dans le sens que l'iconographie, c'est comme les anciens, très rigolo, parce que Warhammer, années 80, début 80...
C'est ça, les orques étaient plus clownesques, à peu près.
Oui, c'était des clowns, carrément. Même les nains, c'était des clowns. Tout le monde, les nains, ça buvait de la bière en se battant, une hache d'une main, puis une bière de l'autre. Puis c'était vraiment, ça se prenait pas au sérieux. Avec le temps, ça c'est comme, on se prend au sérieux un peu, maintenant, le chaos. Mais bref, ça, c'est plus l'esprit dans le temps, là. C'est vraiment avec plein de blagues, tout ça. Bref. Okay. Très comique.
Plus dans l'esprit Blood Bowl que l'esprit.
Exactement, Blood Bowl. Ouais, t'as pas cet esprit-là, ouais. Donc, voilà, c'était mon petit coup de cœur à point de vue jeu de plateau. J'étais aussi Cyclades et d'autres, mais une autre chronique, hein, quand même. Là, je vais vous parler maintenant de livres. Vous savez que je rappelle que je suis bibliothécaire aussi, donc il y a un côté, hein, je peux pas m'en. Moi, les ISBN, j'adore ça.
Bon. Alors, donne-nous le ISBN de ce prochain, prochain livre.
Oui, non, je n'aimerais pas l'ISBN. Mais bref, je vais vous parler donc de deux livres qui parlent de jeux de rôle. En fait, ce sont des joueurs, designers, qui ont écrit soit une biographie dans un cas, mais avec l'accent sur le fait qu'elle grandit avec Donjons et Dragons et tous les impacts que ça a eu dans sa vie.
C'est une biographie, quoi? Hein? C'est une biographie ou?
Ouais, en quelque sorte. Okay. Les deux sont faits par ont des trucs en commun, sont des livres en anglais, malheureusement, qui n'ont pas été traduits à ma connaissance. C'est fait par des auteurs britanniques. Donc, avec le sens de l'humour british, là, un peu toujours comment dire, on rit beaucoup de soi-même, l'humour noir, puis c'est assez spécial. On aime ou on n'aime pas. Moi, si vous aimez un peu Monty Python, là, vous allez retrouver un peu de ce ton-là. Le premier, par exemple, c'est The Elfish Jane. De Dungeons and Dragons and Growing Up Strange. Ça, ce que donc ça veut dire, c'est l'auteur, c'est Mark Barrowcliffe. C'est le gène elfique, là, tu sais. Donc.
Et l'art de grandir bizarrement.
Ouais, bizarre. Voilà. Non, vous voyez un peu l'idée. Mais ce que j'ai trouvé bizarre dans ce livre-là, c'est que l'auteur, il est comme déchiré. Des fois, il dit, il est là, oh, c'est vraiment nul, tu sais. Il décrit son adolescence, puis, hey, que je te cave, puis, là, t'as l'impression qu'il regrette tout ça. Puis, le paragraphe d'après, il dit, mais si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Non, je ne regrette rien. Donc, on dirait qu'il lui-même n'est pas convaincu. On dirait qu'il a écrit ça pour.
Il regrette d'avoir été outsider un peu ou.
D'avoir été rejet parce évidemment, il dit tous les autres, tu sais, pognaient les filles. Moi, j'avais aucune idée comment parler aux filles, là. Tu sais, c'est drôle. Évidemment, il raconte un paquet d'anecdotes. Et c'est. Bon, toi, c'est moi, j'ai du bien ri, là. Tu sais, le gars, il l'a vraiment pas, là. Puis il va en vacances, puis là, il arrête pas de parler à ses parents. À chaque fois qu'il propose une activité, il dit. Là, il ressort une anecdote de Donjons et Dragons. Saviez-vous que les Hobgoblins pouvait, bon, tu sais, par rapport aux gobelins, il va parler de la sociologie des gobelins, les parents, whatever, on pense, tu sais, ça n'a aucun rapport. Il était complètement déconnecté, le gars, puis évidemment, il en beurre épais, là. Mais.
Il en est rendu où aujourd'hui? Est-ce que c'est le punch final?
Ben voilà. Il s'est comme un peu réformé, si on veut. Il est marié. Il a une fille, imaginez-vous donc. Donc, on peut survivre à Donjons et Dragons. C'est ça qui. Et même presque. Il est beau bonhomme quand on voit sa photo ici. Il est quand même assez beau bonhomme. Donc, il y a de l'espoir quand vous jouez à Donjons et Dragons.
Peux-tu l'écrire un peu, là, aux gens qui peuvent pas voir?
Ah, ben écoutez, c'est un grand. Ben, je sais pas.
Il y a un grand nez, cheveux courts.
Il y a l'air
correct.
Oui, il y a l'air correct. Je suis pas un spécialiste en beauté masculine.
Juste pour mentionner qu'Anne, elle a donné le OK.
C'est vrai, c'est vrai. On a Anne ici en studio et Anne fait
quand même, c'est un bonhomme.
Tout thumbs up.
OK, excellent. Alors, donc, un bon livre, une très belle couverture cartonnée rigide. Donc, quand même une bonne qualité d'édition et une très bonne lecture dans le genre. Bon, le deuxième livre, c'est une production beaucoup plus, je dirais pas amateur, mais à plus petit tirage, tout ça. C'est l'auteur, c'est Johnny Nexus, et le livre s'appelle Game Night. C'est six dieux, bon, je vous traduis ça on the fly, vous m'excusez. Mais, donc, c'est six dieux qui s'assoient et qui prennent une journée là, pour faire du jeu de rôle, mais là, vraiment mauvais. Là. Fait que là, c'est ça le gag, c'est vraiment des vrais dieux, qui ont chacun leur... Évidemment, t'as le guerrier, puis lui, c'est une brute épaisse qui tue toujours tout le monde, puis c'est toujours genre, mettons, le gardien de la porte, il leur demande une question, puis là, lui, il laisse même pas finir, il tue, t'sais. Là, ils sont là, hey, la bang! Puis la porte est barrée à cause de toi. Puis là, ils sont obligés de fudger finalement, comme on faisait. De François, ça y rappelle les souvenirs. Si vous avez joué adolescent à Donjons et Dragons, veux pas, ça arrivait.
En fait, ce qui arrivait dans le temps de notre adolescence, quand on voulait faire quelque chose du genre le gars de la porte, il arrive pour faire une énigme, puis il y avait un joueur qui disait je le tue! Ben, le maître, il disait tout le temps, non, fais-le pas, puis là, finalement, ça se faisait
exactement.
Jamais.
Bon,
je pense qu'on fait pas mal tout ça au début de. Moi, premièrement, j'ai joué au jeu de rôle peut-être à 30 ans la première fois, et c'était avec Christian Lacroix. Et je me souviens d'avoir défait des collets pour attraper des lapins, alors qu'on essayait de manger. Alors, faut-tu être calme un peu? Ouais, c'était
ben,
un peu.
Écoute, mais c'est vraiment adolescent. Ce qui est drôle, c'est qu'on fait des gaffes, puis après ça, on s'astine. Là, ils s'astinent eux autres pendant les joueurs, là, pendant longtemps. Ah, pourquoi t'as fait ça? Finalement, ils en viennent, ils sont tous piteux, parce que là, le maître de jeu, lui, se en frogne, puis vous êtes pris, hein, vous êtes mal pris. Fait que tellement, là, ça finit que, bon, on recommence, on refait. Bon, il recommence son énigme. Puis là, ça finit que, là, l'autre, il attend un peu plus, puis une fois que la porte est ouverte, il tue encore. Bon, vous voyez, le genre, là, c'est un
comme une vraie game de donjon, là.
Oui. Il y a toujours
comme toujours.
Tu sais, il y a toujours un psychopathe.
Mais son poche.
Puis il y a aussi le gars qui fout rien, tu sais, il s'appelle Stone, puis lui, c'est celui qui
s'appelle Stone.
Il est Stone. Là, il y a le regard vide, puis de temps en temps, il brasse, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais, là? Les points. Un gars, moi, je le suis, là. Je fais comme lui. T'sais. Il fait absolument rien, il sert à rien. On en a des comme ça. Là, ils viennent pour se tenir avec la gang, mais ils s'en foutent du roleplay. Ils sont comme en mode quand ça finit, c'est quand qu'on mange. Bon. Alors, il y a un peu de tout ça. C'est vraiment rigolo. Puis il y a presque un deuxième niveau. T'sais. C'est des dieux à la fin. En tout cas, bref, j'en dis pas plus. Mais il est. Ah oui, à noter que si vous voulez le lire gratuitement, et sur le site N-World, il est disponible chapitre par chapitre. Je pense qu'il est rendu à la moitié. Donc, on pourrait mettre le là,
oui, sur N-World. Peux-tu te rappeler le nom des deux bouquins?
Oui, c'est. Il y en a un qui c'est. Vous excuserez mon accent. On a un prof d'anglais qui
peut. Oui, t'as aucun accent. T'es parfait en anglais.
The Hellfish Gene. Le gène, donc, elfique. Malheureusement, comme je disais, c'est justement en anglais. Là. De Mark Barrowcliffe et Game Night de Johnny Nexus.
Bien sûr, Night comme la nuit et non comme le chevalier.
Oui, en un mot, ouais, Game Night en un mot, c'est ça. Et donc, allez voir sur N-World.
Et Christian nous a également parlé du jeu Chaos
Marauders.
Marauders.
Oui, de Fantasy Flight Game. Chaud de recommandation.
Hey, merci beaucoup, Christian Lacroix, d'être passé à l'émission.
Ça fait plaisir.
Et comme à l'habitude, bien, on va finir ça avec une petite chanson.
On va écouter une pièce de Les Amis au Pakistan, Cendrillon lave le poil. Les Amis au Pakistan qui viennent juste de sortir un nouvel album. La critique est mitigée, mais bon, on va écouter une pièce de leur ancien album. C'est un groupe de Montréal. On les aime beaucoup. Vous êtes à puissance maximale.
Béchamel. Caramel, mortadelle, citronnelle, cannelle et miel, chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. Je suis la maîtresse de ma cuisine.
T'as mal oublié de laver le chiffon. T'as mal oublié de laver le chiffon. une glisse, ma crisse.
Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
C'est un jingle qui est vraiment presque à point parce que c'est le carnaval bientôt à Québec. Le Bonhomme Carnaval qu'on salue, justement, je pense qu'il a été présenté en fin de semaine dans un centre commercial de la région et tout le monde était très heureux de le voir. Ce qui nous amène vers la chronique de Guillaume Forain. Guillaume, ça va très bien?
Oui, et toi?
Ah, toujours.
Et moi, j'ai eu la chance, j'aurais eu la chance de jouer plus. Malheureusement, j'ai pas pu.
Durant le temps des fêtes?
Durant le temps des fêtes, j'étais en rénovation, donc j'ai pas pu jouer beaucoup. J'ai été capable de m'asseoir hier pour jouer plus. J'ai eu la chance...
Même pas de Dungeons & Dragons Online?
Même pas.
Vous avez même pas fait ça?
Il y a François qui était vraiment déçu, là.
Mais... Moi, vous devrez m'expliquer quelque chose parce que je le trouve pas dans mon ordinateur, vraiment. Là. Il a été téléchargé pendant 4-5 heures, là, la version complète, et vous devrez venir faire quelque chose avec mon portable parce que je ne le trouve pas.
On va t'arranger ça.
Code
18. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai vu qu'il y avait un nouveau Final Fantasy qui sortait, Crystal Bearers. Je sais qu'il y en a eu plusieurs qui ont sorti similaires, mais je n'ai pas joué, donc je peux pas les comparer. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, ça a l'air intéressant, j'ai regardé en arrière. C'est un jeu de la Wii, ça utilise la manette, ça utilise le Wii Motion. Ça peut être intéressant, je vais voir à quoi que ça donne. Surtout, ça fait longtemps que j'ai pas joué des RPG sur quelque chose d'autre. Qu'un ordinateur. Et les RPG, ces consoles, c'est pas tout à fait pareil, c'est différent. Donc, je me suis installé devant le jeu, je me suis dit, bon, c'est un jeu de Wii, je vais m'attendre à un jeu intéressant, des graphiques corrects, et on va partir ça.
Oh, mais qu'est-ce que ça annonce?
Le jeu, bon, première des choses, question de voix, donc les gens qui parlent, c'est correct, c'est rien d'exceptionnel, on s'attend à ça au moins. C'est une note de passage, c'est pas rien qui ressort, des fois les voix, on dirait, oh, faites. C'est un petit peu moins bien avec la situation, mais de ce côté-là, c'est correct.
Là, tu parles des cinématiques, là, dans le jeu?
N'importe quand. Quand il parle dans le jeu, cinématique surtout, effectivement, c'est correct. C'est rien d'exceptionnel. Côté graphique, bon, c'est un jeu de la Wii. C'est moins beau que sur le Xbox, que sur la PS3. Mais c'est correct, ça passe bien. On s'attend pas plus loin à ça. Qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu? C'est le gameplay. Le gameplay dans n'importe quel jeu, bon, c'est sûr, certain que l'histoire, ça compte, mais la façon que le jeu se joue, c'est un plus. Dans ce jeu, Notre personnage a des pouvoirs de télékinésie, donc on peut ramasser des objets et les tirer à des endroits. Donc là, la manette vient très intéressante, parce qu'on peut pointer à des endroits ou tirer des objets. On peut faire bouger la manette pour renvoyer les objets dans des directions.
Okay. C'est-à-dire que s'il y a des boîtes puis un ennemi qui arrive, tu peux prendre la boîte puis pitcher en face.
Effectivement, et même c'est la façon de faire les combats, c'est de tirer soit les objets ou les ennemis, dans le fond, les tirer eux-mêmes contre des murs, des choses comme ça. Mais en ramassant les objets, c'est la façon la plus efficace. Donc okay. On ramasse des roches, on ramasse des tables.
Mais il y a encore des épées et tout ça, là.
Ouais, non, c'est ça.
Il
hein?
y en a pas. Ah. Les ennemis peuvent en avoir. Notre personnage utilise juste la télékinésie. Ah. C'est juste ça qu'il fait.
Mais ça s'appelle Final Fantasy quand même.
Oui.
Donc c'est une nouveauté qui plaira pas nécessairement à tous les gamers hardcore de Final Fantasy.
Peut-être. C'est différent. C'est sûr, certain qu'à un moment donné, faut pas juste se fier à se battre avec des épées. Mais il y a quand même l'univers de Final Fantasy en arrière, certains aspects, les chocobos, les autres personnages.
Et juste question technique comme ça, là. Oui. Je sais pas si tu l'as mentionné, j'étais peut-être ailleurs. Est-ce que c'est seulement la Wiimote qu'on utilise ou également le Nunchuck?
Le Nunchuck. Le Nunchuck, on l'utilise entre autres pour les prises de vue, donc quand on veut changer l'angle de la caméra, et pour bouger. Donc c'est le Nunchuck, tandis que la manette l'est utilisée pour quelques menus et pour les combats, entre autres la manipulation d'objets.
D'accord.
Un petit bémol sur le gameplay, lire les instructions correctement, parce que moi au début, je ramasse des objets, ça va bien, je suis capable de les tirer. Je savais pas qu'on pouvait viser pour tirer les objets à certains endroits. Donc quand j'arrive à mon premier big boss, qui était Bahamut, ça a été long, il a fallu que des gens me lisent les instructions, ils font « Ah, tu peux viser en pointant. Ah, ben gardons ça. » C'est rendu beaucoup plus facile maintenant.
Ouais, c'est parce que là, tu tirais les objets partout.
Ben j'essayais de viser, mais là, ça marchait pas. Je tirais mes objets, ça revolait pas à bonne place. Donc, pas faire comme la majorité des gamers et juste ouvrir le jeu, lire les instructions. Des fois,
ben, tout le monde fait ça. Il n'y a pas personne qui les lit les instructions, voyons.
On lit les deux premières pages, on va voir, c'est correct, je suis capable d'embarquer. Celui-là, ça, j'ai passé à 10 minutes à tirer des objets à gauche puis à droite sans que ça fonctionne jusqu'à temps qu'on me lise les instructions. Donc, un bon plus, lire les instructions, je vous le conseille. Le jeu, par contre, une petite bémol, il est difficile d'assimilation pour un néophyte. Quelqu'un qui commence dans des jeux d'RPG, il manque d'instructions. Il manque de tutoriels un peu sur certaines affaires. Il en donne, mais il faut découvrir par soi-même. Il faut vraiment les fouiller sur certaines affaires. Donc,
pour les menus et tout ça, j'imagine, hein, parce qu'un RPG,
menus,
c'est souvent...
Pour, dans le gameplay, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Comment qu'on peut interagir? Des fois, c'est un petit peu plus difficile. C'est pas quand même trop difficile, mais quelqu'un qui est moins habitué à ce genre de jeu-là, il va commencer à jouer au jeu. Il va peut-être se décourager rapidement, mais il faut juste persister un peu. On réussit à en embarquer dedans. Donc, c'est juste un petit bémol là-dessus. Des fois, il y a des jeux qui l'entraînent mieux. Il y en a d'autres qui l'ont moins bien là, pour rentrer. Par contre, le jeu, qu'est-ce qui est très intéressant? On a une petite introduction au début où est-ce qu'ils parlent entre eux autres. Et après, à peu près 2 minutes, on est déjà dans l'action. Okay. On est déjà de l'action. On se bat contre des ennemis. Donc, ça, c'est un plus. Le jeu,
ça, c'est important de ne pas passer 15 minutes d'introduction, de commencer dans l'action.
15 minutes juste
tout de suite
à parler, c'est
comme
ça.
Comme parfois dans les Final Fantasy, on a sur les autres consoles. Mais sur la Wii, c'est un peu moins fréquent. Quand on parle des différents jeux que la Wii offre, là, c'est un peu moins fréquent. Les cinématiques qui sont très, très longues, disons.
Mais celui-là, vraiment, j'ai été surpris même que j'étais assis tout croche sur le divan. Puis là, tout d'un coup, je vais m'endresser. Il faut que je vise, là.
Faut déjà... Non, tu ne savais pas que tu allais viser à ce moment-là.
Ben, au fait, je pouvais viser parce que le début, on a comme une arme qu'on peut tirer sur des ennemis. Mais bon, ça,
mais là, tu es en train de nous prendre pour des.
Okay. Non,
ça, c'est Final Fantasy, tu disais Crystal Bearers. Crystal Bearers, ça, c'est le quoi? C'est le 13e, le 14e?
Je sais pas c'est lequel dans l'eau. Il est sorti le 26 décembre.
Ouais, est-ce qu'il... C'est dans la série des Crystals.
C'est ça, comme les Crystal Chronicles.
C'est hors série.
C'est qui est hors série, mais on retrouve des noms de personnages comme Cid, qui est un personnage, un nom qui revient souvent dans les Final Fantasy. Bon, le jeu, les équipements, c'est limité comparé aux autres. Par contre, nos morceaux d'équipement, c'est qu'on ramasse des ingrédients et avec les ingrédients, on crée nos équipements. On a des recettes. Par contre, l'ordre qu'on assemble les recettes semble influencer qu'est-ce qu'on a comme objet. Parce que moi, chaque objet que j'ai eu quelque chose de meilleur que la recette que j'étais supposé de faire. Mais je prenais pas nécessairement un après l'autre, j'y allais au hasard. Donc, il semble avoir un aspect de chance aussi pour créer les objets. Donc ça, c'est un plus. On n'est pas assuré toujours dans tel objet. On peut aller chercher des upgrades supplémentaires. Qu'est-ce qui est quand même un bon plus. Aussi, qu'est-ce qui est fun dans le jeu? C'est pas juste du « j'avance, je tue des ennemis ». Il y a aussi des mini-jeux à travers. Donc, éventuellement, on se promène dans une grotte, on court après un méchant. On arrive pour sortir de la grotte. C'est une rivière qui mène vers une chute. Mais quand on tombe dans la rivière, ben, on a comme un mini-jeu de surf. Il faut passer à travers des obstacles, il faut accrocher des drapeaux. Donc, il y a plusieurs mini-jeux à travers le jeu qui font comme décrocher, mais tout en étant dans l'histoire. Donc ça, c'est un plus parce que ça nous permet juste de pas faire j'avance, je tue un monstre, je continue. C'est un plus dans le jeu aussi. Un plus et un moins, c'est aussi les monstres. Parce que chaque zone, nouvelle zone qu'on rentre dedans, automatiquement, il y a des monstres qu'on doit se battre contre. Après un certain temps, les monstres disparaissent. On a avantage à tuer les monstres parce que c'est comme ça qu'on ramasse les ingrédients, entre autres. Et on a certains avantages, des achievements qu'on peut débloquer quand c'est la première fois qu'on tue, on finit le tableau de monstres. Le désavantage, c'est que des fois, on est en train de faire nos affaires et là, tout d'un coup, les monstres apparaissent. Donc, il y a un changement dans le jeu. Qu'est-ce qui fait que les monstres apparaissent et tous les paysans disparaissent? On est obligé de se battre ou attendre que ça soit fini. Ça peut être un plus, ça peut être un moins. Ça dépend de votre gameplay là-dessus. Mais de façon générale, c'est quand même intéressant. Les monstres sont variés, les tactiques à utiliser sont variées. Il y a des monstres qu'on peut pas juste tirer n'importe où. Des fois, il faut tirer des objets. Il y a des monstres qui explosent. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Donc, une bonne variété de ce côté-là, c'est quand même un bon plus au jeu.
Dans Final Fantasy, c'est quand même réputé là, pour avoir des monstres assez flyés, je pense.
De façon générale, effectivement, il y a une bonne variété. Là. C'est pas toujours des gobelins. Éventuellement, on change, on passe à autre chose.
Et parlant de monstres ou de boss, parce que souvent les boss à la fin du tableau, c'est le niveau de difficulté pour les battre. Est-ce que c'est du type Final Fantasy, justement, quand tu arrives à la fin du jeu ou parfois dans le milieu où tu as un boss à jouer pendant 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes parfois même?
Au fait, jusqu'à date, qu'est-ce que j'ai eu comme les combats, entre autres avec des monstres plus difficiles, dont le Bahamut, qui était mon premier big boss à battre, le combat en tant que tel n'était pas difficile. Fallait juste que je trouve quoi faire. Mais les ennemis sont faciles à éviter, sont faciles à tuer de façon générale. C'est pas trop difficile. Donc, vraiment, une difficulté moyenne pour un jeu. Là. Je dirais c'est même sous la moyenne des Final Fantasy normales pour les boss, du moins jusqu'à date. J'ai peut-être 7 heures de fête dans le jeu, donc je suis pas rendu assez loin pour pouvoir vraiment commenter plus là-dessus. Mais pour le moment, ça semble quand même de difficulté moyenne. En finissant, j'ai vraiment un gros moins au jeu, c'est côté carte. Là-dedans, on n'a pas de carte qui nous dit exactement où est-ce qu'on
est. Ah, il faut toujours que tu essaies de te rappeler où c'est que
tu es. De rappeler, c'est un petit peu comme dire, je suis dans la région de Québec, je suis où? Je dis, t'es à Québec, ok, je vais aller à Beauport. T'es dans la région de Québec, débrouille-toi. C'est le défaut du jeu, c'est la carte, c'est une grosse lacune. Et les commentaires, c'est site web aussi sur le jeu, ils disent c'est vraiment la grosse lacune du jeu. Il n'y a pas de carte pour nous diriger correctement. C'est difficile des fois, surtout au début, de se rendre d'un endroit à l'autre. C'est très mêlant, ouais. Faut se souvenir où aller. Puis si on se trompe, ben là, on vient juste de passer 10 minutes à se rendre à la mauvaise place. Faut revenir, reprendre l'autre choix. Donc c'est vraiment, je dirais, le gros point négatif. Moi, en ce moment, sur ce jeu, je donnerais un 7.5 dû, entre autres, à la difficulté pour se retrouver. Par contre, le jeu, il est intéressant. C'est un jeu que je suggérais à quelqu'un qui voudrait essayer de quoi différer un peu, justement, comme jeu d'aventure RPG sur la Wii, dû au fait des combats, c'est plus la télékinésie, ça utilise le Wii Motion, c'est pas des épées, ça fait changement. Donc, moi, je donnerais un 7 sur 7.5, mais je suis pas rendu extrêmement loin dans le jeu. D'après moi, le jeu va s'améliorer en avançant aussi, une fois que la compréhension rentre plus loin puis qu'on ramasse le tout.
Bien, c'est super. Merci beaucoup, Guillaume.
OK, le jeu, c'était Final Fantasy.
Crystal Bearers.
Crystal Bearers. Et c'est vrai que ça vaut la peine sur la Wii, peut-être, d'essayer des jeux. On sait que les jeux sont pas toujours bien cotés. C'est pas extraordinaire comme jeu, souvent. Mais il y a toujours une petite nouveauté, justement. Les compagnies essaient beaucoup avec la Wiimote de créer des choses différentes et ça vaut la peine de le faire, surtout au niveau des RPG.
Surtout si on aime le style.
Mais qu'entends-je? Mais c'est le thème de notre concours.
Eh oui.
Mais que se passe-t-il, François, aujourd'hui avec le concours?
Ben, c'est comme Noël, mais
Après Noël.
Parce qu'en plus, c'est ça, on a reçu des nouveaux jeux. Bubble,
dont on a parlé avec Chantal Campagna il y a de cela près d'un mois.
Dans une magnifique boîte en métal, on écoute ça. Voilà.
On dirait des Pringles.
Et on a aussi, en même temps, c'est comme un 2-pour-1, on a des dés aussi de Arkham Horror. Donc, ooh, c'est des D6 normales, c'est juste qu'ils sont spécialement faits pour
stylisés,
jouer au jeu de plateau Arkham Horror. C'est ça, ils sont stylisés.
Vous êtes en train de nous écouter vraiment en direct sur CKIA. Vous appelez au 418-529-9026, 418-529-9026, et vous pouvez gagner ces beaux prix que François vient de vous décrire.
Et sinon, on va écouter une pièce de sélection de Musax.info. Donc, il y a notre ami français Yannick Capmarty qui a sélectionné des pièces du jeu Anubis Zone of the Enders. Donc, la première pièce, c'est une pièce qui s'appelle Beyond the Bounds. Donc, Zone of the Enders, c'est un jeu qui est sorti en 2003 pour la PlayStation 2. Et il s'agit d'un jeu de combat de mecha. Vous êtes à puissance maximale.
suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Et comme à chaque mois, nous recevons Chantal Campagna alias Fraulein Evil du Valet de Cœur à Montréal qui vient nous parler des nouvelles sorties en jeu de plateau. Bonjour Chantal!
Allô!
Chantal, j'imagine que le temps des fêtes a dû être tumultueux pour toi, brûlant d'activité. Au Valet de Cœur, comment ça va? Est-ce que tu as réussi à survivre avec tous tes membres?
Nous avons réussi à survivre avec tous nos membres. Évidemment, pour nous, la période de Noël, c'est toujours assez occupé. Mais présentement, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réparer la zone sinistrée, donc de re-remplir nos entrepôts. Et cette semaine, donc, la France nous aide, car nous recevons bateau après bateau après bateau de nouveautés.
Ouais, c'est la France qui est votre plus gros fournisseur, votre...
Ben, c'est certain que pour nous, la France, c'est un fournisseur qui est important parce qu'on essaie la plupart du temps d'avoir les versions françaises lorsqu'elles sont disponibles. Donc, heureusement, nos cousins d'outre-mer aiment bien nous envoyer des choses, n'est-ce pas? Donc, cette semaine, nous recevons une cargaison assez importante de versions françaises de jeux qui ont été présentés soit à Essen de 2009 ou même qui datent parfois de 2008, mais qui valaient la peine d'attendre.
Alors, dis-moi justement, quels sont ces jeux?
En fait, une des plus grosses nouveautés qui est les plus attendues cette semaine qu'on reçoit, c'est Salem, l'ombre de Cthulhu. Donc, c'est la traduction française de Witch Hunters de Salem, Exter von Salem, qui avait été présenté à Essen en 2008. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Cthulhu qui est absolument superbe parce qu'il s'adresse à un public néophyte et non pas de connaisseurs comme Horreur à Arkham. C'est un jeu qui dure environ une heure. On essaie de désactiver les portails maléfiques et de tuer la grosse bébite. C'est absolument superbe et de toute beauté. Donc, Salem, l'ombre de Cthulhu.
Donc, fermer les portails, tuer la grosse bébite, on reste toujours dans le même esprit de Lovecraft, de Cthulhu.
Oui, c'est ça. Deuxième nouveauté qui est très attendue, on parle de Stronghold. Stronghold, c'est un jeu qui est sorti cette année à Essen 2009, qui avait été très, très bien reçu. C'est un jeu de guerre. Finalement, c'est du fantasy, du médiéval. Ce qu'on essaie de faire, c'est soit on joue les attaquants et on essaie de vaincre finalement notre adversaire qui, lui, s'est terré dans les murailles de son château. Donc, soit on est l'assiégeant ou soit on est l'assiégé et on va obtenir des points de différentes façons selon que nous sommes les défenseurs ou que nous sommes les attaquants dans ce jeu-là. Donc, c'est une traduction française d'un jeu qui nous avait été offert par des Polonais qui sont des petits nouveaux dans le monde du jeu. C'est une nouvelle compagnie qui s'appelle Portal, mais c'est un jeu qu'on attend avec impatience. C'est 2 heures, c'est 10 ans et plus. C'est quand même un jeu qui s'adresse aux gens qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés, mais qui risquent de plaire énormément au public qui ont aimé la quête de la Terre du Milieu, puis ce type de jeu-là.
Donc, le jeu de plateau Stronghold.
Stronghold. Enfin, une troisième nouveauté, évidemment, qui me fait un petit chaud dans le cœur à moi, c'est un Martin Wallace en version française. Enfin! Donc, tout le monde sait qu'un Martin Wallace, c'est le plus grand créateur de jeux de l'univers. Donc, Tinner Strill nous est offert en français par Yellow. En fait, c'est Yellow qui nous offre tous les jeux dont je viens de parler à l'instant. Donc, Tinner Strill, c'est un jeu de gestion. On essaie de faire finalement, nous sommes des miniers dans la province de Cornwall, en Angleterre. On essaie de faire des sous. C'est un jeu de gestion qui est quand même assez musclé, mais qui risque de plaire à tous les amateurs.
Miner's Trails.
Tinner's Trails.
Tinner's.
Tinner's Trails. Enfin, plus léger, mais quand même bien attendu, Munchkin Quest, le jeu de plateau en version française. Enfin, on peut jouer notre Munchkin en 3 dimensions. Tuer les monstres, piller les trésors et trahir nos amis, mais tout ça sur un plateau. qui est intéressant avec Munchkin Quest, c'est que quand même les règles de base restent relativement identiques aux jeux de cartes que tout le monde connaît déjà très bien. Sauf que lorsqu'on se promène entre les pièces du donjon, les règles changent. Donc, pour chaque donjon dans lequel on va, que nous allons visiter afin de ramasser des bébelles et de tuer des bébites, les règles vont changer, vont parfois affecter même tous les membres de l'expédition, même s'ils ne sont pas avec nous. Donc, un beau revamp finalement d'un concept qui dure depuis déjà plusieurs années et qui fonctionne très, très bien.
Ben oui, dis-moi Chantal, à propos de ce jeu-là, Munchkin Quest, c'est un dungeon crawler. Est-ce que ça reste toujours dans l'esprit de Munchkin, c'est-à-dire assez léger, assez facile à maîtriser, ou ben c'est vraiment dans l'esprit des dungeon crawlers habituels, très très lourd?
Non, on reste vraiment dans l'esprit très, très humoristique de Munchkin, très, très accessible pour les néophytes. Il suffit de savoir lire. Les cartes, évidemment, contiennent toujours des petites notions humoristiques aussi. Donc, on s'amuse beaucoup à lire les cartes pendant qu'on attend notre tour, mais ça reste toujours très, très léger, très, très accessible. Évidemment, un beau jeu de groupe, c'est toujours très, très agréable.
Écoute, Chantal Campagnat, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On va devoir se donner rendez-vous le mois prochain. Je rappelle simplement les noms des jeux que tu as parlé. Le premier jeu, ça a commencé par Salem. Peux-tu répéter le nom, s'il vous plaît?
Salem, l'ombre de Cthulhu.
L'ombre de Cthulhu, suivi de Stronghold, Tinner's Trail et Munchkin Quest, version française.
Oui!
Je te remercie beaucoup, Fräulein Evil.
Ah ah! Ça me fait plaisir.
Au mois prochain. Ciao, ciao. Et voilà.
Auf Wiedersehen. C'est en parler allemand.
Hermann Friese und Sie hören Puissance maximale.
Ben justement.
Mais tu parles d'une petite surprise que tu me fais là. C'est Friedemann Friese qui vient nous parler. Et c'est le temps de philosopher avec notre nouveau chroniqueur, Pierre-André Doyon. Pierre-André, bienvenue à Puissance maximale.
Ben merci beaucoup, merci beaucoup. Donc c'est ça, aujourd'hui on va philosopher un peu, philosophie du gamer plutôt que philosophie des jeux en tant que tel. Ce que je veux dire par là, des jeux, que ce soit les jeux vidéo, jeux de rôle ou encore dans le monde des comics ou des romans, c'est pas là-dessus que je veux vraiment m'attarder. Donc il y aura pas ici de phénoménologie de She-Hulk. De toute manière, parler de She-Hulk, pour moi, c'est un effort surhumain.
De toute façon, il y a personne qui sait c'est quoi She-Hulk ici.
Ben voyons, tout le monde sait c'est qui.
She-Hulk, en fait, c'est la cousine de Hulk. Elle est avocate et elle se transforme en bonhomme vert elle aussi.
Ah, ok. C'est comme la femme de 5 de 6 millions, là, mais pour Hulk.
C'est comme Supergirl.
Ah, c'est ça.
Oui, ben dans le fond, c'est une gimmick qu'ils ont essayé de faire pour faire de l'argent, elle n'a jamais pogné, puis c'est maintenant rendu un cliché pour dire quelque chose qui pogne pas, mais un peu comme Aquaman.
J'ai une question juste avant qu'on rentre, là. Si Supergirl c'était le pendant féminin de Superman, Wonder Woman c'était qui là?
Batman.
Wonder Man existait? Ok. Non.
Ouais, ben c'est ça. Donc, c'est vraiment parler ici, comme on l'a vu, comme l'émission le montre à chaque semaine, ou presque, dans le fond, c'est que les gamers, c'est rendu une culture, c'est rendu un mode de vie. Je veux dire, quand on est gamer, on vit d'une certaine manière, pas nécessairement de la même manière, mais d'une manière qui va prendre en compte nos habitudes de jeu. Et ces habitudes de jeu-là découlent d'un choix. Ces choix-là, dans le fond, c'est là-dessus que j'aimerais parler dans ma chronique. Qu'est-ce qui, des fois, on va penser, on va simplement acheter un jeu de même, mais on pense pas que quand on achète de quoi, on fait un choix nécessairement, et on se rend pas compte de l'ampleur, dans le fond, du joueur en tant que, premièrement, consommateur dans tout ce qu'il va acheter de jeux, de choses comme ça, aussi de critique et de juge, dans le fond, parce que l'achat d'un jeu, c'est un vote, dans le fond. Si on n'achète pas un jeu, on est en train de décider des courants qui vont arriver dans les jeux. Si on n'aime pas quelque chose ne nous attire pas, c'est pas un jeu qu'on va acheter, donc c'est pas quelque chose qui va être produit. Donc, ça va être ça dans mes chroniques que j'ai envie de parler. Premièrement, développer une curiosité. Pourquoi on devrait, dans notre éthique du gamer, développer une curiosité, ne pas aller simplement dans les grosses affaires des entreprises déjà bien fondées. Parce que faut se rappeler que Sony a déjà fait des jeux pour Nintendo avant d'être une grosse compagnie, donc il a fallu que quelqu'un s'intéresse à eux pour qu'ils finissent par faire bien des jeux. Donc, c'est tout le temps comme ça. Ça pourrait être une capsule, quelque chose que je pourrais parler, dans le fond.
Mais est-ce qu'on va parler, Pierre-André, est-ce qu'on va parler d'environnement, par exemple, les jeux, on sait qu'il y a beaucoup d'électronique dans les jeux vidéo, ça peut générer de la pollution. Est-ce qu'on va aborder ces sujets-là?
Exactement, ça sera un autre sujet de capsule, dans le fond. C'est dans la partie citoyen de la Terre, si on veut, du gamer, parce que, veux, veux pas, le gamer est sur la Terre, il est pas tout le temps en train de se battre sur la Lune ou dans un monde fantastique. Donc, son choix, s'il laisse allumer son PlayStation pendant toute la semaine ou s'il est constamment en train de jeter ses livres plutôt que de les revendre en usager ou de les brûler, si mauvais soit-il ou si bon soit-il, ben c'est sûr, ça a un impact. Donc, c'est simplement de se rendre compte que, oui, c'est du jeu, oui, c'est du loisir, mais c'est de se rendre compte de toute la puissance qu'on a à travers, dans le fond, nos votes, le vote qu'on fait quand on achète, la manière qu'on joue entre amis. Puis je crois que c'est pas simplement de la restriction, là. C'est pas, je viens pas ici pour donner un code d'éthique, puis à partir de maintenant je veux que tous les gamers obéissent de A à Z.
Et ça, c'est, on va s'interroger, on va se poser des questions simplement.
Exactement, je veux pas donner non plus de réponse, dire ah, ben c'est sûr, je vais donner mon opinion, je crois, parce que ce serait dur d'être complètement objectif, puis même si j'essayais de l'être, mon opinion transparaîtrait au travers.
Ben oui, parce que t'es un joueur toi aussi.
Ben oui, c'est ça, donc j'ai mes opinions.
T'es entouré de joueurs armés.
Exactement, fait que aussi, ben, à travers mes chroniques, ben, je vais inviter le public à tout le temps communiquer, me dire dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont le goût qu'on parle la prochaine, ou qu'ils me répondent dans le fond, que j'entende un feedback dans le fond sur « Ouais, ben ce que t'as dit, pas trop d'accord » ou des choses comme ça.
Est-ce que tu as une idée la semaine prochaine ou peut-être la prochaine fois que tu vas participer, qu'est-ce que tu vas aborder comme sujet?
Oui, j'aurais le goût de parler principalement de les achats. Comment on les fait, dans le fond? Est-ce qu'on va privilégier notre petite boutique du coin ou les avantages, supposons, d'Amazon? Supposons, acheter toutes ces
sur Internet, trucs sur ou Internet, acheter sur une grosse surface. Ou...
Acheter sur une grosse surface, exactement. Ou plutôt privilégier d'aller dans son petit magasin de quartier, puis aller voir le gars qu'on connaît bien, puis dire salut.
Dans le jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça, des commerces de quartier, mais il y en a quand même quelques rares, mais il y en a quelques-uns.
Exactement. C'est de les connaître, puis c'est de faire l'effort, mais on va se demander aussi... Quels sont les avantages des deux choix? Aller vers le gros marché ou privilégier le petit? Pourquoi on devrait aller vers un ou vers l'autre? Donc, c'est ça que j'aimerais aborder dans le prochain.
Parfait. Ben, on te remercie beaucoup, Pierre-André, de te joindre à l'équipe. Et puis, on a bien hâte d'écouter ça. Voilà, Pierre-André, il va parler un peu d'éthique philosophique.
Et oui, si ça vous tente, comme il le mentionnait, de donner vos commentaires ou bien si vous avez voulu en parler, vous avez des sujets dont vous voulez que Pierre-André parle à l'émission, mais vous pouvez le faire. On vous rappelle que nous avons un site internet www.puissancemaximale.com dans la zone contact, mais vous avez nos adresses courriel, on en reçoit plusieurs par semaine et on vous remercie de nous envoyer des courriels et de nous donner vos commentaires et vous avez juste à justement noter vos questions, nous les envoyer, on les fera parvenir à Pierre-André, merci beaucoup.
Merci.
Sinon, on va mettre un petit indicatif et puis on revient tout de suite après.
Je suis madame, 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 madame. Comment
va madame? Très bien. J'écoute puissance maximale.
C'est les joies du live ici à la radio et c'est des choses qui arrivent.
Voilà, de retour à puissance maximale.
Et il y a beaucoup de monde qui parle en studio.
Un peu d'actualité ludique maintenant. Windows 7, c'est une nouvelle que Christian m'a envoyée. Windows 7, que révèle la fonctionnalité cachée? God Mode. Hein, on est des joueurs, on est adeptes de la puissance maximale. Alors, on a ici le mode Dieu dans Windows 7, un mode qui serait caché. Donc, la fonctionnalité de Windows 7.
Et aussi Vista. Moi, je suis sur Vista et ça fonctionne. Le 32 bits, non, le 64.
Et t'as essayé?
Oui, je l'ai essayé. Ça fonctionne. C'est vraiment cool. On rentre une espèce d'adresse vraiment bizarre. Faut la connaître.
Et c'est une ensuite, fonctionnalité cachée.
Oui. Et là, il apparaît dans une espèce d'icône là, bien bizarre. Puis c'est God Mode. Ça fait vraiment... T'es là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on accepte tout. Là. Puis un paquet de fonctions qui avaient disparu de Windows depuis des années. Oui? Fait que c'est le fun.
Ben moi ce qui est marqué dans l'article de branchezvous.com, c'est que ça centralise dans un seul dossier un large inventaire de paramètres du système d'exploitation. Oui. Donc, c'est des trucs qui sont déjà...
Ben oui, c'est des fonctions dans le fond qui sont comme par exemple gérer les réseaux sans fil. C'est beaucoup de gadgets, le changer les pointeurs de souris, changer le clignotement. Tu sais, c'est des petits gadgets. Mais t'as, comme tu dis, à un endroit, t'as vraiment là, des
centaines... Obligé de chercher, là. C'est tout
non,
en
non, tout est là. Puis les cossins étaient là. J'aurais jamais pensé à aller jouer là-dedans, mais c'est là. Fait que c'est quand même... C'est bien. Pour un geek, là, c'est le fun.
Et les gens qui veulent savoir comment faire, c'est ça, c'est une espèce de code qu'il faut rentrer. Ça a l'air absolument épouvantable, ça a l'air invraisemblable, un peu comme mod, mais c'est vrai, apparemment ça marche. Christian vient de le confirmer. Et pour avoir les instructions, ben allez sur branchezvous.com.
Et c'est ce qui met fin à l'émission Puissance Maximale d'aujourd'hui, 11 janvier 2010. Le temps de remercier tout le monde qui était à l'émission aujourd'hui. Merci Guillaume Forand d'être passé.
Ça fait plaisir.
Merci Christian Lacroix.
All right.
Et merci également à Pierre-André Doyon pour sa première chronique et on le reverra bientôt.
Hey, merci et à la prochaine.
Et un gros merci à Chantal Campagna qui était en direct du Valet de cœur à Montréal et également à notre cœur, le cœur de Puissance Maximale, celui qui gère la console à toutes les émissions.
Presque.
François, j'ai à presque à toutes les émissions, je m'excuse, j'ai même un couteau en dessous. Non, c'est beau. oui, alors c'est François G. Couillard.
Merci Vincent Langlois.
Et ça me fait plaisir. Et on remercie également Anne, la voix féminine de Puissance Maximale, qu'on n'entend pas tout le temps, mais souvent dans les intros. Anne qui était présente ici pour, en fin de compte, à toutes les 5 minutes, nous donner un massage. Et c'est comme ça qu'on termine l'émission aujourd'hui.
On a l'air de des gros machos, mais c'est pas vrai.
Ben, on est vraiment tous et toutes.
D'ailleurs, on en recherche des femmes. Hein. C'est des femmes qui veulent participer à Puissance Maximale. On est très ouverts.
Oui.
On va leur laisser toute la latitude qu'ils veulent.
Et on est des hommes roses. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci à tous et à toutes. Et comme à l'habitude, dont on vous souhaite une bonne semaine.
Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins till the day we...